Chaque chromosome est formé d'un chapelet de grains qu'on appelle des gènes. Chaque gène est un grain d'hérédité. Chacun correspond à un caractère bien défini de l'être vivant dans lequel il se trouve.
Ça, c'était en 1964. Aujourd'hui, toute l'histoire des hommes sur 7 millions d'années peut être lue dans nos gènes. Cette façon d'explorer le passé est très récente. Et nous avons en France une grande spécialiste du sujet, Evelyne Heyer, professeure en anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle raconte que l'on peut dater précisément, grâce à la génétique, quand Homo sapiens est sorti d'Afrique. Combien de rencontres charnelles entre Néandertal et Sapiens ont donné lieu à des naissances, ou de quel pays sont issus les descendants d'esclaves. Le séquençage tel qu'on le connaît aujourd'hui était impossible il y a 20 ans. Il a aussi fallu inventer des formules mathématiques, les coupler à la puissance de calcul des ordinateurs, et cela donne une véritable machine à remonter le temps. Mais pour obtenir des résultats, il faut pouvoir collecter de l'ADN sur le terrain, dans des lieux souvent improbables. Les gènes sont une archive de l'histoire des peuples, une histoire que personne mieux qu'Evelyne Heyer ne peut raconter.
Les aventuriers sur France Inter.
Bonjour Evelyne Heyer.
Bonjour.
Alors les gènes sont une machine à remonter le temps, que peuvent-ils raconter ?
Eh bien, en fait, ils vont déjà nous raconter qu'on est une espèce qui a beaucoup bougé sur la planète. On émerge en Afrique il y a environ 300 000 ans, et après, notre espèce va partir à l'aventure à l'extérieur de ce continent il y a environ 70 000 ans. Et comme on le sait maintenant, on va aller partout sur la planète. Et donc, l'ADN permet de retracer, je dirais, ces grands voyages de nos ancêtres, et permet de montrer aussi au niveau de chaque individu, en regardant tous ces bouts d'ADN qu'on a reçus de nos ancêtres, que finalement on a tous des ancêtres migrants dans notre généalogie.
Et on va en parler dans cette émission. On peut raconter cette histoire de l'humanité grâce à l'ADN, et c'est assez récent.
Oui, en fait, c'est récent dans le sens que le niveau de précision qu'on a maintenant, il a fallu, pour avoir ces données-là, pouvoir séquencer l'ADN, c'est-à-dire lire tout l'ADN des individus. Un ADN, c'est fait de 3 milliards de lettres, il y a 4 lettres dans l'alphabet de l'ADN, et c'est en lisant la plupart de ces bouts d'ADN qu'on arrive finalement à avoir une précision qui permet de remonter dans le passé.
La connaissance même de l'ADN est récente.
Le 10 décembre 1962, à Stockholm, cinq physiciens et chimistes recevaient collectivement dans le faste et la pompe le prix Nobel des mains du roi de Suède. Ils s'appellent Crick, Watson, Wilkins, Perutz, Kendrew.
L'ADN permet donc d'explorer le passé, mais quelles sont les techniques qui permettent de remonter avec une précision assez grande ?
En fait, il y a deux techniques. On va dire, il y a les techniques qui sont basées sur l'ADN moderne et celles qui sont basées sur l'ADN ancien. Je vais déjà vous parler de l'ADN moderne. C'est quand on prend l'ADN de gens qui vivent à l'heure actuelle. Donc ça veut dire quoi prendre l'ADN ? Eh ben, ça veut dire aller sur le terrain, aller dans des endroits où il y a des populations qu'on souhaite échantillonner, et là, prendre l'ADN sous forme de sang ou sous forme de salive, retourner au laboratoire et le passer à travers des machines qui permettent de le lire. Donc ça, c'est l'ADN moderne.
Et qu'est-ce qu'on lit ?
Ah, ben alors on lit toutes les lettres de l'ADN ou des bouts où on sait que les lettres vont être différentes entre deux individus. En moyenne, deux humains sont identiques à 99,9%, c'est-à-dire qu'il y a une différence toutes les 1000 lettres. Et en fait, quand on veut retracer l'histoire des humains, on utilise ces 1 pour 1000 de différence, parce que si des individus ont des ancêtres communs, ils vont porter ces mêmes différences. Et donc, en comparant des ADN, on arrive comme ça à retracer les proximités des ancêtres des individus.
Quand on dit qu'on a réussi le séquençage du génome humain, qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh ben, le séquençage, ça voulait dire de lire cette succession de lettres. Hein. Il faut imaginer 3 milliards de lettres mis bout à bout qu'on va lire. Je sais que j'ai un ami qui s'était amusé à calculer. C'est comme si vous aviez un livre de 600 000 pages où on a lu l'ordre dans lequel sont toutes ces lettres. Parce que finalement, c'est l'ordre qui permet de déterminer en partie ce que va faire l'ADN. Il y a une partie de l'ADN qui sert à faire des protéines, à faire notre machinerie. Et puis, il y a une grande partie qui sert pas à grand chose, où on sait pas très bien encore à quoi ça sert. Et dans cette partie qu'on dit non codante, par contre, on a l'information sur les similitudes des ancêtres des individus.
Je vous propose d'écouter un extrait du journal de 7h30 de France Inter. C'était le 15 avril 2003. On a l'impression que c'était au Moyen-Âge.
C'est un pas de géant pour l'humanité qui vient d'être franchi. Le séquençage du génome humain, il est pratiquement achevé à 99,9%. Annonce faite à Washington par le groupe international de scientifiques chargé de décrypter cet immense et complexe livre humain entre 35 000 et 40 000 gènes dont la combinaison à chaque fois différente fait de chacun de nous un être unique.
Elle le dit bien.
Oui, puis c'est vertigineux de voir, il y a si peu de temps finalement qu'on arrive à lire cet ADN.
18 ans.
Oui.
Depuis, qu'est-ce qui a changé ?
Eh ben, depuis, les techniques se sont améliorées. Donc d'abord, le coût du séquençage de l'ADN a bien diminué. Et puis on a développé d'autres outils, ce qu'on appelle les puces à ADN. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette technique, mais ça veut dire que maintenant, pour chaque individus, on a des informations. Et comme en parallèle, les théories se sont beaucoup développées et aussi les puissances de calcul, on arrive maintenant effectivement assez finement à retracer des grands pans de l'histoire humaine.
Justement, Evelyne Ayer, vous avez dit il y a deux ADN. Celui que l'on prend sur vous, sur moi, sur des populations vivantes, et puis l'ADN ancien. Quelle est la différence ?
L'ADN ancien, ça, c'est une révolution qui date d'une dizaine d'années où, finalement, des scientifiques sont arrivés à extraire l'ADN de fossiles, c'est-à-dire de restes humains qui ont maintenant disparu. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans les os à extraire cet ADN ou dans les dents et à séquencer en partie l'ADN de ces restes humains qui n'existent plus. Et ça, c'est fascinant parce que avec l'ADN moderne, on retrace l'histoire de nos ancêtres, mais avec l'ADN ancien, on retrace aussi des humanités ou des populations qui ont complètement disparu.
Qu'est-ce que ça peut raconter ?
Ah ben le résultat le plus magique, c'est vraiment l'histoire qu'on se soit mélangé avec Néandertal, notre cousin disparu il y a 35 000 ans. Lorsque l'homme moderne sort à l'aventure extra-africaine, il rencontre Néandertal qui est issu d'une sortie plus ancienne d'Afrique et il y a eu des croisements à tel point que tous les gens qui ont au moins un ancêtre en dehors de l'Afrique ont jusqu'à 2% de leur ADN qui vient de Néandertal.
Evelyne Ayer, voici ce qu'on disait de l'homme de Néandertal en 1963 dans une émission qui s'appelait « Visa pour l'avenir ».
L'homme de Néandertal, quelles étaient ses caractéristiques par rapport au sapiens, c'est-à-dire par rapport à nous ?
Il était moins évolué, il avait des caractéristiques morphologiques, de forme, son squelette n'est pas le même. Et en même temps, par les restes qui ont été trouvés de ses industries, on voit qu'il n'était pas aussi développé que l'homo sapiens.
Vous avez vu, là aussi, on a fait des progrès.
Ah ben, on a fait des progrès, et puis surtout grâce aux paléoanthropologues hein, qui ont pu montrer que Néandertal avait une culture, qu'il avait des objets symboliques, qu'il enterrait ses morts. Donc, il n'était plus la brute qu'on pensait qu'il était.
Et donc, que nous apprennent les gènes de Néandertal ?
Alors, ils nous apprennent quelque chose d'assez fascinant, à savoir que, par exemple, la population néandertalienne était en décroissance démographique avant l'arrivée de sapiens sur son même territoire. C'est-à-dire, c'était déjà, entre guillemets, une espèce qui n'était pas très costaud d'un point de vue génétique. Alors, l'arrivée de sapiens a certainement accéléré sa disparition. Néandertal et sapiens se chevauchent temporellement pendant quelques milliers d'années sur le continent eurasiatique, mais visiblement quand même notre arrivée ne lui a pas fait du bien, même s'il n'était pas déjà top quoi.
Evelyne Ayer, vous expliquez que la population de Néandertal a commencé à décroître il y a quoi, 60 ou 50 000 ans, mais comment est-ce qu'on le lit ça ?
Ah, bah comment on lit ça ? En fait, il faut voir que votre ADN, il faut considérer que c'est des bouts et chaque bout est reçu d'un ancêtre commun. Et donc, on regarde tous ces bouts d'ADN et on dit, ben, dans ce génome, l'essentiel des ancêtres communs viennent plutôt de telle période ou de telle période. Or, on sait que le fait d'avoir un ancêtre commun à un moment donné dépend de la taille de la population. Vous avez plus d'ancêtres communs récents dans un petit village, vous êtes plus cousins, que dans une grande ville. Et donc, à partir des dates de ces ancêtres communs qu'on arrive à lire dans l'ADN, on arrive comme ça à retracer les événements démographiques d'une population dans le passé.
Grâce aux gènes, est-ce qu'on sait quelle était la couleur des cheveux de Néandertal, la couleur de ses yeux, la grandeur de ses pieds ?
Alors, on sait pour Néandertal, oui et non. On sait en comparant ce qu'on connaît chez Sapiens. C'est-à-dire, chez Sapiens, on connaît certaines mutations qui font qu'on est plutôt de couleur de peau claire, qu'on a plutôt telle couleur de cheveux. En imaginant que c'était les mêmes mutations chez Néandertal, on arrive à dresser un portrait robot. Il était de couleur marron intermédiaire, c'est-à-dire il n'était pas très foncé ni très clair. Certains d'entre eux avaient les cheveux roux, mais pas tous. Et pour la couleur des yeux, c'était plutôt des yeux marrons.
Alors j'ai compris que la génétique permet aussi de savoir combien il y a eu de relations charnelles qui ont donné lieu à des naissances, des relations entre Sapiens et Néandertal.
Oui, c'est un collègue en Suisse qui a construit un modèle démographique en disant, bah, pour avoir ces 2% de Néandertal en nous, combien est-ce qu'il aurait fallu qu'il y ait de rencontres charnelles entre Sapiens et Néandertal, et il arrive au résultat de 150.
Alors c'est pas 150 beaucoup. Qui ont donné lieu à des bébés.
Voilà, 150 qui ont donné lieu à des bébés. Alors quelque part, on se dit c'est pas beaucoup parce qu'en plusieurs milliers d'années, faire que 150 rencontres charnelles. D'un autre côté, faut bien imaginer qu'à ces époques-là, les densités de population étaient très faibles. Donc, faut déjà qu'ils se rencontrent.
Il paraît que ce sont plutôt les femmes sapiens qui ont fricoté avec Néandertal plutôt que des femmes Néandertal qui auraient fricoté avec des hommes sapiens.
Oui, en fait, en regardant le chromosome qui est essentiellement transmis par les femmes, à savoir le chromosome X, on a reçu peu de X, entre guillemets, de Néandertal, ce qui va dans le sens d'un croisement entre des femmes sapiens et des hommes néandertaliens. Mais ça, c'est juste une étape de l'histoire, parce qu'on sait que bien avant, Sapiens avait donné son chromosome Y à Néandertal, donc que c'était des hommes sapiens qui s'étaient croisés avec des femmes néandertaliennes. Vous voyez des mélanges dans tous les sens.
C'est vraiment une machine à remonter le temps, l'ADN.
Tout à fait.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Vous l'avez reconnu, Georges Moustaki, le métèque.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Evelyne Heyer, généticienne des populations, ne se gêne pas pour affirmer que les hommes ont beaucoup de gènes communs avec les bananes. Quand elle part sur le terrain, ce qu'elle adore, elle fait avec son équipe des moissons de données génétiques, ethnologiques, linguistiques, qui permettent de raconter l'histoire des hommes, des mélanges ou des migrations.
Alors, j'ai eu la chance d'aller dans deux endroits, mais surtout en Asie centrale et en Sibérie, et quelquefois en Afrique centrale. Et à chaque fois, c'est extraordinaire, parce que donc on rencontre d'autres populations humaines, des gens, et c'est fascinant à chaque fois de voir que quelque part, partout, la question des origines est une question qui interpelle les humains.
Qu'est-ce que vous allez chercher chez ces populations? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des prélèvements?
Oui, je fais des prélèvements, mais pas que, parce que un des grands moteurs de mes recherches, c'est de montrer que la culture joue aussi sur la diversité génétique. Et donc, à chaque fois que je vais sur le terrain, non seulement je prends de l'ADN, bien sûr, mais aussi des éléments culturels. Par exemple, la langue, comment les gens se marient, à quel lignage, à quel clan ils appartiennent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Donc, c'est à chaque fois des expéditions sur le terrain qui mélangent, on va dire, un peu de l'ethnologie et aussi, je dirais, de la biologie.
J'aimerais bien que vous nous emmeniez sur votre terrain. Comment ça se passe quand vous partez ?
En Asie centrale, la première fois que j'y suis allée, je suis allée à l'Académie des sciences pour trouver un scientifique qui serait d'accord pour travailler avec nous. Et donc après, on est allés ensemble sur le terrain. Alors la première chose qu'on fait, c'est de dérouler toutes les autorisations administratives. Alors l'Asie centrale, c'est des anciens pays du régime soviétique, donc ils ont toute une administration en cascade. Donc vous commencez par le ministre, vous allez vers le chef de région, le chef de sous-région, etc. Et vous arrivez au niveau du village, soit au maire, soit au médecin local. Vous lui expliquez les projets et après, lui va demander à la population s'ils veulent bien venir et participer. Puis après, à chaque personne, on réexplique, on leur demande s'ils veulent bien participer. Mais des fois, ça marche pas comme ça. Donc, par exemple, une fois, je suis arrivée en Mongolie et on n'a pas pu dérouler tout ça parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on avait eu plein d'aventures avant. Et on a tout simplement fait une annonce dans le marché du village, en leur disant, en leur expliquant le projet. Et là, on a eu des tonnes de gens qui sont venus. On n'arrivait plus à fournir tellement les gens étaient contents de venir, de participer à ça. Enfin, oui, c'est vraiment à chaque fois différent et en tous les cas, super.
Globalement, vous êtes bien perçu.
Oui, étonnamment d'être français. En général, on est bien perçu dans le monde entier. Ensuite, on est tout le temps avec des scientifiques locaux aussi. Et je crois qu'aussi, on doit être sympa. En tous les cas, ça se passe toujours bien. On n'a jamais eu de problème. Et puis, c'est vrai que la question d'où on vient, de se raconter, puis d'avoir nos enquêtes ethnologiques en même temps, on demande aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, avec qui ils se marient, d'où ils viennent, ça leur plaît de se raconter.
Et vous faites des tests salivaires ?
Soit salivaire, soit du sang, ça dépend des endroits, parce que quand même l'ADN qu'on peut récolter dans le sang est de meilleure qualité. Donc quand on peut, on privilégie ça, mais quand on peut pas, on le fait à partir de la salive.
L'ADN peut raconter beaucoup de choses, mais est-ce que l'ADN a livré tous ses secrets ? Est-ce qu'on pourrait peut-être aller plus loin encore ?
Il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire encore, c'est notamment prédire à partir de l'ADN d'un individu ses risques en termes de maladie, en termes d'état de santé. Il y a des grands développements à l'heure actuelle qui sont faits en Europe, mais malheureusement on s'est rendu compte que ce qu'on calculait en Europe ne s'appliquait pas dans les autres régions du monde. Donc on ne peut pas encore, je dirais, en plus d'échantillonner pour retracer l'histoire, pouvoir dire aux gens, bah, attention, vous avez tel risque de maladie ou tel l'autre, ça ne marche pas encore, mais je pense que ça marchera dans une dizaine d'années.
Et en tant que machine à remonter le temps, est-ce que vous aimeriez que soient développées certaines choses ?
Ce serait génial qu'on puisse remonter le temps plus ancien, mais ça, visiblement, malheureusement, l'ADN est un peu trop dégradé quand on fait de l'ADN ancien, parce qu'il y a des grands mystères, comme l'homme de Flores, qu'on appelle le hobbit de la préhistoire. On n'est pas arrivé à extraire son ADN parce qu'il vit dans des zones tropicales. Donc, ce serait génial si d'ici 10 ans, on arrivait à extraire l'ADN de ces humanités qui ont maintenant disparu.
L'ADN de Lucie, par exemple, c'est totalement illusoire aujourd'hui.
Je pense que l'ADN de Lucie, c'est totalement illusoire. Mais par contre, l'ADN de Flores, il vivait il y a 60 000 ans, ça fait partie des rêves possibles.
C'est incroyable. On parle de l'ADN aujourd'hui, en 2021, alors qu'en 1962, il était quasiment inconnu. Je vous propose d'écouter le biologiste Jean Rostand parler de l'ADN à la télévision française dans l'émission Visa pour l'avenir. À cette époque, en France, on parlait encore de DNA.
Eh bien, on peut dire, sans aucune exagération, que le DNA, c'est ce qui est le plus important dans le monde. Et ce superlatif est très facile à justifier. Un homme est un homme parce qu'il a, dans ses chromosomes, un certain DNA, c'est-à-dire une certaine substance chimique d'une certaine composition. Toute la différenciation des espèces animales, au fond, n'est qu'une différenciation de DNA. L'évolution peut être considérée comme l'épopée du DNA. Le DNA n'est pas seulement le siège de la spécificité, il est aussi le siège de l'individualité. Tous les hommes ont des DNA différents. Le DNA de Pierre n'est pas le DNA de Jacques, qui n'est pas le DNA de Paul. Enfin, ces molécules de DNA sont des grosses molécules, des molécules géantes, qui sont à la limite, si l'on peut dire, de la chimie et de la vie. Des molécules qui ont encore le pouvoir d'auto-assimilation, d'auto-reproduction. On peut donc espérer que cette étude du DNA pourra nous conduire à mieux connaître le secret de la vie.
C'est génial, hein?
Ah
ouais. Cet extrait de 1962. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ben, je trouve qu'on a fait des pas de géant, hein. On sait mieux utiliser l'ADN. Et puis maintenant, on est aussi un peu plus humble, hein, sur la place de l'ADN dans la constitution d'un individu. On sait bien que ce qu'est un individu n'est pas juste son ADN, mais bien aussi dans quel milieu il vit, dans quelle société. On peut pas limiter ça à l'ADN. Donc, on est sorti quand même aussi en même temps d'un déterminisme tout génétique qui...
Heureusement.
Oui,
on
heureusement.
Est plus que nos gènes.
On est plus que nos gènes.
Il n'empêche qu'en étudiant l'ADN de populations disparues, on retrouve les impacts de la sécheresse ou des épidémies.
Tout à fait. C'est-à-dire, on peut regarder dans des ADN anciens si les gens ont résisté à certaines choses. Le plus bel exemple d'adaptation à l'environnement que j'adore, c'est l'adaptation à l'altitude des populations tibétaines qui sont adaptées, c'est-à-dire elles résistent à un milieu avec peu d'oxygène. Et on connaît maintenant les mutations, c'est un gène où il y a quelques mutations. Et alors là, absolument incroyable. Il a été reçu, ce gène, d'une espèce qui a maintenant disparu. L'homme de Denisova, qui est un cousin de l'homme de Néandertal, qui a disparu, mais il a pu être montré que lui-même avait vécu longtemps en altitude. Il s'était adapté d'une manière génétique et hop, les sapiens se sont croisés avec lui et ont récupéré ce gène qui leur a permis à leur tour de s'adapter à la vie en altitude. Je trouve ça extraordinaire.
C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on peut retrouver des traces de la peste sur les squelettes.
Alors, on peut retrouver du bacille de la peste dans les dents. Et il y a plusieurs travaux qui sont faits à l'heure actuelle et qui montrent qu'il y aurait eu des pestes depuis il y a au moins 5000 ans en Europe, avec différentes épidémies à différents moments. Et ça aurait peut-être joué sur une invasion, en tous les cas sur l'arrivée massive de gens venus des steppes qui sont venus s'installer en Europe il y a environ 5000 ans. Mais ça reste une hypothèse.
Ça veut dire que l'épidémie ou la pandémie qu'on vit en ce moment va laisser des traces.
Alors, pour qu'une épidémie laisse des traces, c'est moche à dire, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui meurent. Et là, même s'il y en a quand même beaucoup qui meurent, on n'en est pas au point où, par exemple, l'épidémie de peste au Moyen-Âge, la moitié de l'Europe était morte. Donc, on n'en est pas quand même à ces niveaux, on va dire, de pression, de sélection aussi fort, sans compter que le Covid touche surtout les personnes très âgées, qui, bien sûr, ne transmettent plus leurs gènes. Donc, en termes de sélection, le Covid ne va pas faire grand-chose. Mais fait intéressant, dans la susceptibilité à la maladie et le fait de faire des formes graves, on sait qu'il y a un variant reçu de Néandertal qui rend plus susceptibles certaines personnes. Donc quelque chose qui était peut-être avantageux dans le passé des populations, étant donné que ça a été sélectionné et que ça a gardé dans notre génome, ne l'est plus à l'heure actuelle face à une nouvelle épidémie et au contraire nous rend plus fragiles.
Fog, c'était Marinero.
Les aventuriers sur France Inter.
L'étude de l'ADN d'une population et sa comparaison avec d'autres ADN, c'est la base de la génétique des populations. Et notre ADN peut se révéler très bavard puisque nous portons ce que nous ont légué nos ancêtres, même très lointains. La génétique permet de remonter le temps et montre que nous avons toujours bougé.
Oui, les hommes ont toujours migré, mais il faut bien voir que c'est des échelles de temps très différentes. Par exemple, avec les données génétiques, on a pu dater qu'il y a eu une sortie d'Afrique il y a environ 70 000 ans d'un groupe humain et une colonisation de l'Australie à 50 000 ans. Donc ça fait 20 000 ans pour parcourir ces milliers de kilomètres. Ça fait entre 3 et 10 kilomètres par génération. Donc, on peut pas parler...
3 kilomètres par génération.
C'est ça. On peut pas parler d'un être humain qui est parti d'Afrique avec son sac à dos et qui est allé en Australie. Hein, c'est des choses qui sont assez lentes. En tous les cas, la colonisation de la planète, ce sont plutôt des mécanismes lents. Parce qu'après cette sortie, il y a environ 70 000 ans d'Afrique, on arrive en Europe à 40 000 ans. Donc, il faut 30 000 ans pour faire ces quelques milliers de kilomètres.
Comment est-ce que vous imaginez les choses ?
Ben, moi, j'imagine des petits groupes qui s'installaient à un endroit plus ou moins, donc c'était leur terrain de chasse, et puis qui se déplaçaient un peu, de quelques kilomètres, soit au fil du temps, soit de génération en génération. Et puis en plus, chez l'homme, il y a quand même ce souhait d'aller voir ce qu'il y a derrière la colline, hein, quand même. Qu'on a toujours, et je pense que c'est comme ça que petit à petit se sont faits tous ces mouvements de migration qui nous paraissent maintenant vertigineux, mais en fait qui se sont faits petit à petit.
À propos des migrations, Yves Coppens s'est exprimé en 2000, extrait de l'émission Les Chemins de la Connaissance, diffusée le 18 juillet 2000 sur France Culture. Vous me direz ce que vous en pensez.
L'homme lui-même, ses prédécesseurs, que l'on appelle de manière un peu barbare australopithèques, étaient beaucoup plus stables. Ils étaient inféodés à un milieu. Mais par contre, l'homme doté de culture, c'est-à-dire l'homme doté de conscience, très probablement, et puis doté aussi d'un certain outillage, l'homme qui en plus a un développement cérébral qui s'est considérablement fait à cette époque de 3 millions d'années, et puis l'homme doté aussi d'une plus grande mobilité parce que pour des raisons d'adaptation, il est devenu omnivore, c'est-à-dire qu'il s'est mis à manger de la viande, c'est-à-dire qu'il s'est mis à chasser et donc à courir après le gibier, grâce au comportement lié à ses caractères, a bougé. Et il n'a cessé de bouger depuis 3 millions d'années.
Evelyne Heyer, c'était en l'an 2000. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Yves Coppens à l'époque ?
On est toujours d'accord avec Yves Coppens. Non, mais oui, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, et d'ailleurs, si on compare, par exemple, à nos cousins comme les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, c'est quelque chose de stupéfiant. C'est le fait que finalement, nous, on soit allé partout, on soit déplacé sur toute la planète. Alors, on voit bien, en plus, dans les environnements extrêmes, comme dans le Grand Nord, les Inuits, on n'a pu s'y adapter que parce qu'on avait l'outillage, les vêtements. Et en retour, on s'est adapté biologiquement à ces nouveaux environnements. Donc c'est toujours cette imbrication entre à la fois, je dirais, la culture matérielle qui, dans ce cas-là, a permis d'aller dans des endroits extrêmes et en retour, une adaptation biologique à ces endroits extrêmes. Et c'est ça qui est fascinant.
Vous avez parlé des singes. Est-ce qu'avec l'ADN, on est en mesure de dire quand les deux branches se sont séparées entre les singes et les hominidés?
Oui, tout à fait. Alors ça a eu un grand débat avec des histoires de taux de mutation recalibrés, etc. Grosso modo, maintenant, on en est à la séparation entre la branche qui va devenir l'homme, enfin plutôt le buisson qui va devenir l'homme, et le buisson qui va du côté chimpanzé bonobo, à environ 7 millions d'années. C'est à peu près la date la plus consensuelle à l'heure actuelle.
Donc on lit ça dans l'ADN.
Ah oui, parce qu'en fait, c'est en comparant l'ADN, par exemple, d'un chimpanzé et d'un homme, on compte le nombre de différences, c'est grosso modo 1%, et on calibre ça, parce que plus le temps passe, plus on accumule des différences, et donc plus vous êtes différent de quelqu'un, plus votre ancêtre est ancien, et comme ça, on peut calibrer et voir que notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé, plus loin le gorille, plus loin l'orang-outan.
Comment est-ce que vous lisez ça? Vous travaillez sur un ordinateur, vous confiez l'ADN à de grosses machines, on vous envoie des résultats?
Ah, tout à fait. On extrait l'ADN au laboratoire et après ça, on l'envoie auprès de grosses machines qui nous renvoient des fichiers informatiques.
C'est dur à lire? C'est compliqué?
Ah bah faut programmer pour les lire. Ça se lit pas comme ça sur l'écran. Donc après, on développe des calculs qui nous permettent après de raconter toutes ces histoires. Mais ça prend du temps. Hein.
Donc l'histoire de l'homme qui a commencé il y a 7 millions d'années, je vous propose de faire un grand bond dans le passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous faire un portrait des premiers Européens tels qu'on sait les décrire aujourd'hui grâce à l'ADN?
Oui. Alors, grâce à l'ADN, donc, on a pu aussi retracer quelles étaient leurs couleurs de peau, les yeux, etc. Et c'est fascinant. Donc, les premiers Européens sont de couleur de peau foncée, ce qui était attendu, étant donné qu'on vient d'Afrique. Et pour s'adapter à un ensoleillement fort, c'est bien d'avoir une peau plus foncée.
Qui résiste mieux.
Qui résiste mieux. Et on arrive en Europe et on pensait que une latitude moins de soleil, il faut une couleur de peau plus claire pour arriver à assimiler de la vitamine D et on pensait, entre guillemets, que les Européens s'étaient éclaircis rapidement. Et en fait, ce que l'ADN montre, c'est que pas du tout. Les Européens restent noirs de couleur de peau jusqu'à, entre guillemets, très récemment, il y a moins de 10 000 ans. Donc ils arrivent il y a 40 000 ans en Europe et ils restent noirs de couleur de peau jusqu'à il y a environ 10 000 ans. Et ceux du Nord, en tous les cas, en plus, avaient les yeux bleus. Donc l'Européen classique le plus longtemps sur le continent européen, c'est un homme noir aux yeux bleus.
Oh, ça devait être pas mal.
Pas mal. Et en fait, la couleur de peau va s'éclaircir à peu près il y a une dizaine de milliers d'années pour deux raisons. D'abord, il y a des agriculteurs qui viennent du Moyen-Orient qui, eux, ont une couleur de peau plus claire, donc il y a un mélange. Et en plus, on change d'alimentation avec moins de vitamine D dans l'alimentation et donc une pression de sélection pour avoir une couleur de peau plus claire. Et c'est la conjugaison de ces deux phénomènes qui fait que la couleur de peau s'éclaircit en Europe.
C'est-à-dire que grâce à vos travaux, vous êtes en mesure de dire, d'expliquer ce que ces Européens, il y a combien, 70 000 ans, mangeaient ?
Oui, alors en plus, on peut regarder ça soit par l'ADN, mais on a d'autres outils.
Hein. Bien sûr.
Il y a les isotopes. Les isotopes, ils permettent de dire si quelqu'un mangeait plutôt de la viande, plutôt du poisson et plutôt des végétaux. L'ADN tout seul, quelque part, ce serait pas très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'ADN et l'archéologie, l'ADN et la paléanthropologie.
Alors, en 1991, on a fait une découverte qui a fasciné le monde et beaucoup intéressé les scientifiques. Celle d'Ozzi, l'homme des glaces, retrouvé en Italie à plus de 3000 mètres d'altitude. Et Ozzi vivait il y a plus de 5000 ans. Ça nous a appris beaucoup de choses, cette découverte.
Ah ben oui, parce que de toute façon, de trouver un reste humain aussi bien préservé, ça apporte déjà énormément de choses. Moi, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il a été décrit comme le premier touriste de la préhistoire.
Après être resté gelé pendant plus de 5000 ans sur un versant montagneux, il est aujourd'hui préservé pour l'éternité dans un tombeau réfrigéré. Voici l'homme des glaces. Un vestige de l'âge de la pierre et la momie la plus ancienne jamais découverte. Ce messager du passé est porteur de secrets sur le quotidien de nos ancêtres, environ 1000 ans avant la construction des pyramides.
Extrait d'Ozzi, l'homme des glaces, diffusé sur France 2 en avril 2012. Alors, que nous a appris Ozzi ? Vous dites que ça a été le premier touriste connu.
En fait, quand on est arrivé, quand les chercheurs sont arrivés à extraire l'ADN d'Ozzi, ils l'ont comparé à celui des populations actuelles qui vivent en Europe et ils ont trouvé qu'il était le plus proche des Sardes en Sardaigne. Et donc, ils se sont dit, c'est peut-être un touriste venu de Sardaigne qui s'est retrouvé dans les Alpes. Mais en fait, on a su après, pourquoi ils ont trouvé ça? C'est parce que Ozzi est ancien, il date de plus de 5000 ans. Oui. Et autrement dit, il est avant une grande invasion qui a eu lieu en Europe, les peuples qu'on dit Yamnaya à l'âge du bronze, il y a 5000 ans, qui ont amené leur génome à travers toute l'Europe, sauf en Sardaigne. Et donc, finalement, cette proximité géographique était fausse, c'était plutôt une proximité temporelle, parce que Ozzi ressemblait en fait aux populations qui avaient le moins reçu cette nouvelle vague des nomades des steppes, à savoir les Sardes.
Mais qu'est-ce qu'il faisait là, il y a 5000 ans, à 3000 mètres d'altitude?
On pense qu'il traversait un col pour se rendre d'un endroit à un autre, ou alors qu'il était allé chasser. On s'est toujours déplacé, on est une espèce très mobile à laquelle peu de choses font peur.
Evelyne Heyer, avec vos travaux, avec vos recherches, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler de l'arrivée de l'agriculture en Europe?
Oui. L'ADN a permis de résoudre une question. En fait, on se posait la question, on sait que l'agriculture n'est pas inventée en Europe. On sait que nos pratiques agricoles viennent du Moyen-Orient. Et la question était de savoir si c'était des individus qui s'étaient déplacés avec cette nouvelle technique ou si c'était la technique qui s'était déplacée toute seule. Si vous voulez, comme le chewing-gum, on n'a pas eu besoin d'une invasion américaine pour s'y mettre. Et donc l'ADN, en comparant les populations en Europe avant l'arrivée de l'agriculture et les premiers agriculteurs qui sont arrivés, ont montré qu'il y avait une différence génétique forte qui disait que qu'effectivement, c'est des nouvelles populations qui sont arrivées. Et on a pu voir qu'elles venaient d'Anatolie, donc le sud de la Turquie. Et que donc l'arrivée de l'agriculture est bien une arrivée d'individus et pas juste un changement technologique. Et une fois arrivés sur place, les agriculteurs se sont mélangés avec les Européens qui étaient là sur place, qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs. Oui. Et au fil des générations, il y a eu un mélange qui s'est fait entre ces deux ensembles génétiques.
Ça, c'est pour l'Europe. Mais si on s'intéresse à l'Asie, l'agriculteur est arrivé comment ?
Alors, en Asie, on a des centres de domestication aussi d'arrivée de l'agriculture qui sont plutôt liés au riz, qui, eux, viennent de la Chine, où là aussi, on a eu de la domestication du riz. Et après ça, aussi des mouvements de migration de population.
La vie est belle, mais c'est pas du gâteau. Amis, vos tours attendez donc votre tour pour manger. Se régaler à niveau tour, attendez donc vos tours. La queue le, qui sait qui n'en veut. Ce qui est tombé va certainement monter. Quand c'est cassé, il n'y a plus qu'à fixer. Si c'est fixé, qui s'y colle, c'est ok. Si t'es KO, tu sais où appuyer.
La vie est belle, c'était Fixie et Nicolas Giraud.
Les Saventuriers sur France Inter.
Donnez-lui un peu de votre salive ou de votre sang et Evelyne Heyer saura vous dire d'où venaient vos ancêtres et quel était leur régime alimentaire. Elle est capable aussi de savoir si votre grand-mère n'était pas le fruit d'une relation extra-conjugale. Cela fait des années qu'Evelyne Heyer s'intéresse à l'influence des pratiques culturelles sur la génétique. Une question passionne les scientifiques. Est-il possible de savoir d'où viennent les langues qui sont parlées en Europe aujourd'hui ?
Alors ça, c'est vraiment la grosse question. Les langues parlées en Europe, pour l'essentiel, font partie de la famille qu'on appelle les Indo-Européens. Et en gros, il y a deux grosses hypothèses. Soit ces langues sont arrivées en même temps que l'agriculture, donc de l'Anatolie, soit elles sont arrivées plus tardivement, entre guillemets, des steppes. Donc c'est un décalage de quelques milliers d'années. Et il y a des tenants de l'une hypothèse et des tenants de l'autre hypothèse. Mais le problème, c'est que la génétique nous dit pas ce que parlent les gens. Or, on a des exemples où, par exemple, des langues sont arrivées et elles ont rien changé génétiquement. Si vous pensez aux langues turques, elles sont parlées de la Mongolie à la Turquie, mais avec des différences génétiques entre les individus énormes. C'est-à-dire, les langues sont arrivées sans amener les gènes. Donc, en fait, de présupposer qu'il y aurait une superposition à la fois de langues et de gènes est peut-être un raccourci. Donc, comme avec l'ADN, on ne sait pas la langue que parlaient les gens, ça reste un point d'interrogation. Néanmoins, en général, quand il y a des grandes migrations, les gens amènent leurs gènes et leur langue.
Vous n'avez pas noté de concordance entre l'ADN et les langues ?
À certaines échelles, oui, et à d'autres échelles, pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle. Il y a des endroits du monde où il y a un lien entre la langue et les gènes. Il y a des endroits du monde où il n'y a aucun lien entre la langue et les gènes.
Evelyne Heyer, avec la génétique, avec l'ADN, on peut réécrire l'histoire du peuplement du Québec. Est-ce qu'on peut aussi retrouver, quand on est afro-américain par exemple, ses origines ?
On peut retrouver ses origines et c'est d'ailleurs certainement ce qui a lancé le plus ce qu'on appelle les tests d'origine géographique génétique. C'était ce souhait des descendants d'esclaves de retracer d'où venaient leurs ancêtres. Et donc maintenant, on peut dire qu'il y a eu pas mal de développement pour échantillonner des populations en Afrique pour permettre aux gens de retracer d'où viennent leurs ancêtres. Et effectivement, maintenant, on a un niveau où on peut quand même retracer dans quelle région d'Afrique ces gens viennent. Avec bien sûr le bémol, c'est qu'en Afrique, il y a eu plein de mouvements de population. Donc il y a eu effectivement les esclaves qui ont été amenés en Amérique, mais pendant ce temps-là, toute l'Afrique a été complètement bouleversée. Donc là, on échantillonne des gens maintenant à un endroit donné. C'est pas sûr que leurs ancêtres vivaient à cet endroit-là en Afrique. Mais quand même, ça donne un bon panorama. Est-ce qu'on a plutôt nos ancêtres qui viennent plutôt du Sénégal, plutôt de l'Afrique centrale ou plutôt de l'Afrique de l'Est ?
Donc ça, c'est possible de le savoir aujourd'hui. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de la génétique récréative, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça.
Alors moi, je trouve ça sympa. Je comprends pas très bien pourquoi on l'interdit en France. Hein. Effectivement, je vois bien les dérives qu'il peut y avoir, mais bon, je trouve pas ça suffisamment dangereux au point de l'interdire. Et je trouve qu'il vaudrait mieux l'encadrer que l'interdire, parce que je pense que le souci, c'est plutôt que les gens finalement donnent leur information génétique à des grandes bases de données dont ils perdent un peu après tout le contrôle. Et ce serait peut-être mieux d'avoir des systèmes qui permettent de mieux encadrer ça, par exemple au niveau européen ou au niveau national, plutôt que de l'interdire.
Jusqu'où ça peut aller ? Jusqu'où on peut en apprendre sur soi-même quand on se fait tester comme ça ?
Alors, il y a trois choses qu'on peut faire avec ces tests. Il y a d'abord ce qu'on appelle les tests d'origine. Donc, on va regarder vos bouts d'ADN et on va les comparer à des populations de référence. Et on va dire, il y a 20% de votre ADN qui vient plutôt d'Italie, 10% plutôt d'Espagne, etc. Donc là, déjà, il y a des bémols, mais je ne veux pas rentrer rentrer là-dedans. Deuxième, c'est pour retrouver des apparentés. C'est-à-dire que vous mettez votre ADN dans des bases de données où les gens ont même mis leur base de données et on va vous matcher, on va vous dire vous avez des cousins dans cette base de données et après vous pouvez les contacter et s'ils veulent vous répondre, vous pouvez trouver des cousins comme ça. Et troisième utilisation, c'est pour, je dirais, à vocation entre guillemets médicale, pour identifier si vous avez certains variants génétiques qui peuvent être des facteurs de risque de maladie. Et donc chaque utilisation soulève des questions éthiques très différentes les unes des autres.
Absolument. Et puis la génétique peut aussi aider la police. On peut faire des portraits robots génétiques. Voici un sujet de France 5, l'interview d'un membre de l'Institut national de la police scientifique.
Avec une quantité infime d'ADN, on est aujourd'hui capable de prédire dans les grandes lignes à quoi peut ressembler la personne à qui il appartient.
Lorsqu'on n'arrive pas à identifier l'individu, on va pouvoir prédire à partir de l'ADN différentes caractéristiques telles que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau et l'origine biogéographique de l'individu. Dans notre affaire, ici, il s'agit d'un ADN masculin. On va pouvoir déterminer également sa couleur de yeux. Ici, l'individu a 90% de chances d'avoir les yeux bleus pour la couleur des cheveux. Et on a déterminé que l'individu avait environ 80% de chances d'avoir les cheveux blonds ou blonds foncés. Ensuite, dans le cadre de cette analyse, on est sûr à 100% que cet individu est d'origine européenne.
Evelyne Neyer, est-ce que c'est fiable ?
Oui, avec des probabilités. Oui. Hein, c'est toujours avec des probabilités. Par exemple, pour les couleurs de cheveux, il y a certaines couleurs de cheveux qu'on détermine bien et d'autres moins bien. Les cheveux roux, on est bon. Les cheveux très blonds, on est bon. Mais tous les cheveux châtains, pas bien, parce que on connaît pas bien, par exemple, les gènes qui font que les cheveux deviennent plus foncés. Vous avez beaucoup de personnes qui sont très blonds petits et qui finissent châtains très foncés. Et ça, on connaît pas bien.
Avec ce que vous savez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dresser un portrait de l'homme du futur ?
Alors la seule chose que je pourrais dire sur l'homme du futur, c'est que si ça se trouve, il aura un phénotype inattendu, parce que là, on met en contact des populations qui ont des couleurs de peau, des couleurs yeux et des couleurs de cheveux très différentes les unes des autres. Donc comme il va y avoir du mélange, il va y avoir beaucoup de diversité à l'intérieur des populations et beaucoup de nouveaux mélanges, donc on peut très bien imaginer un individu de couleur de peau foncée avec les cheveux roux et les yeux bleus dans le futur.
Comme les premiers Européens que vous nous avez décrits
oui,
tout à l'heure.
Oui, avec en plus les cheveux roux.
Et notre avenir démographique, on était 100 millions seulement il y a 2000 ans.
Eh bien, on a une démographie explosive, hein, comme chacun sait. On est une espèce qui se reproduit énormément. Et là, on atteint un pic. Et on devrait atteindre un pic encore dans 20 ou 30 ans, autour de 10 ou 11 milliards d'individus. On est 7 milliards maintenant. Mais beaucoup de projections démographiques maintenant disent qu'après, il devrait y avoir une rediminution de la population humaine.
En 1968, Raoul Hartweg, il était professeur d'ethnologie, évoquait à la télévision l'évolution démographique en 1968. Écoutez.
Si maintenant nous avons approximativement 2,5 milliards d'hommes sur la Terre, en l'an 2000, c'est-à-dire dans 30 ans, 32 ans, il faut compter qu'il y aura 6 milliards d'hommes. En 2025, il y aura 12 milliards. En 2050, il y aura 24 milliards. En 2100, il y aura à peu près 96 milliards d'hommes. Et si l'on continue ce calcul, qui n'est pas du tout une plaisanterie, mais qui est ce qui se produira si l'homme n'arrive pas à freiner son expansion excessive, on peut calculer que, aux alentours de l'an 3000, il y aura sensiblement 15 habitants par décimètre carré de terre habitable, de terre découverte. 15 habitants par décimètre carré, ça fait sensiblement, ça doit faire exactement même 1500 habitants par mètre carré. Ce qui est par conséquent absurde et ce qui prouve que nécessairement l'humanité ou bien aura dû trouver des moyens de freinage de son expansion ou bien alors aura définitivement disparu.
Voilà, Raoul Hartweg, il était ethnologue. Ça vous a bien fait rire.
Oui, ça m'a bien fait rire, parce que bon, même à cette époque-là, les démographes savaient qu'il existe ce qu'on appelle la transition démographique, que semblent suivre à peu près toutes les populations humaines, où on passe d'un régime où on a beaucoup d'enfants qui meurent beaucoup, à un régime où on a peu d'enfants qui meurent peu. Donc les projections actuelles vont plutôt dans le sens de, effectivement, on va encore augmenter, mais après, il y aurait peut-être une diminution de la population humaine, mais peut-être que dans 30 ans, on repassera ce que je vais vous dire et que quelqu'un d'autre rigolera, donc soyons humbles.
Merci beaucoup Evelyne Heyer, auteure de L'Odyssée des gènes, 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN, c'est paru chez Flammarion. J'espère qu'on se reverra.
Avec plaisir.
Les Aventuriers, une émission réalisée par Stéphanie Texier avec Fanny Leroy. Merci à Stéphanie Place de l'INA pour la documentation et les archives et à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission est disponible en podcast, bien sûr, comme toutes celles de cette série estivale consacrée à l'intelligence du vivant. La semaine prochaine, nous vous proposons un sujet très original, l'intelligence des foules. Comment se comporte une foule? C'est ce que racontera Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives au Max Planck Institut de Berlin. Inter.